Je vous propose de prendre vos Bibles et de les ouvrir dans l'épître de Paul aux Philippiens. Ce soir, j'ai à cœur de vous faire lire, on va parler un peu de Noël, de ce qui s'est passé à Noël. Et c'est vrai qu'on est blindé, je dirais, de traditions, et j'aimerais qu'on puisse regarder, au regard de ce que dit la Bible, ce qui s'est passé à Noël et ce que ça signifie. Et la première chose que j'aimerais lire avec vous, et c'est pour ça que je volontairement, c'est une prédication où on va lire. Voilà. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voilà, je m'arrête ici. Ici, ce texte nous dit simplement que Jésus était Dieu. On a chanté « Avant ta naissance, je t'ai connu », et je dirais même qu'avant la naissance de Jésus, il existait. Avant même sa propre naissance parmi les hommes, il existait. Et il était l'égal de Dieu. Et sa naissance même est une humiliation pour ce Dieu qui a créé la terre et les cieux, celui par qui tout a existé. J'aimerais qu'on puisse lire cet autre texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Jésus s'est abaissé. La parole a été faite chair. Il s'est humilié déjà de Dieu qu'il est, en s'incarnant dans un être humain, dans un homme. Et ici, on va voir un peu cette idée qui va ressortir. Jean chapitre 1, verset 9, on va lire jusqu'au verset 13. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Le monde a été fait par elle, par la lumière, par Jésus, par la parole. Lui s'est fait homme. On continue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et dans ce que nous venons de lire, notez aussi ce verset qui dit: elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et je crois que c'est tout le symbolisme de la naissance de Jésus. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Je crois que ça résume très très bien sa naissance et toutes les circonstances de sa naissance. Qui, alors qu'il est né, a accueilli Jésus ? Eh bien, on va le voir. On va lire d'abord dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Luc, c'est un évangéliste. C'est celui qui a fait du journalisme d'investigation, on va dire ça comme ça. Il a énormément cherché, il a énormément interrogé, jusqu'à pouvoir retranscrire des conversations privées. Si on sait ce qui s'est passé entre les anges et Marie, entre Zacharie et les anges quand il était dans le lieu très saint, c'est que Monsieur Luc est allé les voir et leur a posé les questions. Et ici, Luc a énormément cherché et Luc nous présente Jésus-Christ comme le Fils de l'homme, comme Dieu qui s'incarne dans un homme. Et c'est sous cet angle-là que Luc nous présente Jésus. Jésus nous présente le côté humble de Jésus, son essence dans une humilité la plus profonde. Au chapitre 2, on lit ceci: « En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place. Il n'a pas été reçu chez les siens. Je continue. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Voici la première prédication qui a été donnée après la naissance de Jésus. Et elle a été donnée par des anges à des bergers. On a là la gloire d'un côté et la pauvreté de l'autre. L'humilité. Dieu se révèle. Il montre sa gloire aux petits. Voilà ce qu'étaient les bergers. C'est paradoxal de voir ainsi toute la gloire de Dieu, les milliers d'anges, la vision qu'ont les bergers qui sont tout en bas de l'échelle sociale du pays de l'époque. Mais c'est à eux que Dieu se révèle. C'est eux qui ont le privilège d'entendre la première prédication. Et elle vient de pas n'importe qui, elle vient des anges directement. On continue. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Ça veut dire Messie, ça veut dire oint, envoyé, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Je sais pas, j'imagine la scène, mais ça devait être beau à écouter quand même. Les musiciens du ciel et les chanteurs du ciel qui chantent comme ça, ça devait être beau à voir et à entendre surtout. Ils ont eu une belle réunion ce soir-là, les bergers. Ils ont eu une belle réunion, je pense. Verset 15, « Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né. Notez bien ce qui est écrit, le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Notez la réaction de tous ceux qui étaient présents. Ils n'ont pas été plus que ça. Ils ont été juste étonnés. Ils ont juste été étonnés. Mais ils n'ont pas cherché à aller plus loin. Ils ont été étonnés. Ici, on voit vraiment quelque chose de merveilleux, c'est la révélation. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le Christ tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, ça veut simplement dire envoyé, un envoyé de Dieu qui s'appelle Jésus. C'est loin de Dieu qui s'appelle Jésus. Christ, ce n'est pas un nom de famille, c'est une fonction. Et c'est celui qui est venu sur la terre. C'est celui qui est venu sur la terre pour donner sa vie, pour sauver l'humanité tout entière, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu. Un cadeau universel. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et ici, on a une scène merveilleuse où on se retrouve confronté à la gloire d'un côté et l'humilité de l'autre. Jésus, je dirais, le pauvre. J'irai même plus loin, l'animal, quasiment, né dans une étable. Bien sûr, ce n'est pas un animal. Jonathan, il a dit que Jésus était un animal. Non. Mais c'est pour dire qu'il est né à l'endroit où étaient les animaux. Et je ne sais pas, mais je crois que nous tous qui pouvons avoir des enfants, on a quand même ce côté digne de recevoir nos enfants dans de bonnes conditions. Et malheureusement, Marie et Joseph étaient tellement pauvres qu'ils n'ont pas pu avoir de place à l'hôtellerie. Ils n'ont pas été reçus. Mais gloire à Dieu, c'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Dieu voulait. Parce que s'il était né dans un palais, les bergers ne seraient probablement pas allés le voir. Et ils n'auraient pas pu recevoir cette révélation que Dieu leur avait donnée. Les bergers étaient libres d'aller voir Jésus. Et les anges ont disparu. Et ils étaient face à un choix. Bon, on va voir ou on va pas voir. Mais ils sont allés voir. Et parce qu'ils sont allés voir, ils ont pu être eux-mêmes encouragés parce qu'ils ont vu le Sauveur. Mais ils ont aussi encouragé les parents de Jésus, adoptifs, parce qu'ils ont pu dire tout ce qu'eux ont vu de leur côté. Et ils ont pu redire tout le message qu'ils ont entendu. Et finalement, on voit la gloire révélée aux petits. Jésus s'est abaissé. On voit que Jésus s'est abaissé de Dieu qu'il était, il devient un homme. De Dieu qu'il était, il commence sa vie en étant dépendant des hommes. C'est encore là un abaissement quelque part. Il devient complètement dépendant du soin que va leur donner Marie et Joseph. Sa vie est entre leurs mains quand même. Un enfant, quand il naît, il est entre les mains de ses parents. Et si les parents ne prennent pas soin du bébé, ben le bébé, il ne va pas vivre. Dieu a laissé le Saint, celui qui est venu pour sauver l'humanité, entre les mains d'hommes pécheurs. Il a été entre nos mains, entre les mains de ses parents. Même que c'était Marie, qu'elle était humble, etc., qu'elle était choisie par Dieu, et c'est tout à son honneur. Jésus est né alors qu'elle était vierge, et ça, on ne dit rien contre ça, c'est la Bible qui le dit. Après, Marie a eu d'autres enfants, et ça je le dis aussi. La Bible le dit aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Jésus a eu des frères et sœurs après, elle n'est pas restée vierge. Marie, telle qu'elle était choisie par Dieu, était quand même une femme pécheresse. Le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. Et donc Jésus s'est retrouvé dans la dépendance d'hommes et de femmes pécheurs. Mais malgré tout, Dieu savait ce qu'il faisait. Et ses parents s'en sont bien occupés. Et il a bien grandi. L'abaissement de Jésus. Au niveau social, on voit ici que Luc nous dépeint une situation de la naissance d'un bébé chez les pauvres. Jésus, non seulement s'est abaissé en devenant un homme, mais il s'est abaissé parce que, d'un point de vue social, il est né tout en bas de l'échelle. Il n'est pas né dans un palais, il n'est pas né dans une situation aisée, bien au contraire, il est né dans une pauvreté extrême. Et c'est comme ça que Dieu s'est plu à révéler son propre Fils. J'aimerais poser la question, pourquoi est-ce qu'on vient écouter l'Évangile? Les bergers, ils étaient là, ils ont entendu cette prédication et ils ont reçu dans leur cœur, cette prédication qui leur a été donnée, et ils ont voulu aller voir. Et j'aimerais te poser la question ce soir, est-ce que, après avoir entendu l'Évangile, est-ce que tu vas vouloir t'enquérir de savoir ce qu'il en est vraiment? C'est un appel, comme les bergers, qui ont voulu en avoir le cœur net, ils sont allés voir. Et on ne peut pas recevoir Dieu. On ne peut pas recevoir Jésus-Christ dans son cœur si, entre guillemets, on ne va pas voir. Si on ne fait pas l'expérience de demander à Dieu cette simple prière. Je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, révèle-toi à mon cœur. Montre-moi. Montre-moi comment tu me vois. Et celui qui est honnête et sincère, qui va voir, Dieu se révélera. Comme les bergers ont découvert Jésus. J'aimerais t'appeler ce soir, si tu n'as pas fait cette expérience, à la faire, comme les bergers l'ont faite. Et on va le voir, ils ne sont pas les seuls à avoir fait cette expérience, d'avoir fait cette recherche. Comment est-ce qu'on reçoit cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, elle est laquelle les anges annoncent Jésus comme étant le sauveur du monde. Mais de quoi le monde est-il sauvé? Le monde est sauvé du péché. Le péché, c'est ce qui fait que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que si on ne fait rien, justement, on ne pourra pas être auprès de lui. Et il nous faut absolument faire la paix avec Dieu. Et pour cela, eh bien, le premier pas, c'est Dieu qui l'a fait. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous. C'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Celui qui a été envoyé par Dieu est mort pour nous. Celui qui vient du ciel est mort pour nous. Et c'est en cela que Dieu prouve son amour. Et nous avons maintenant la possibilité à celui qui vient à Dieu et qui demande pardon pour ses péchés, qui demande à être sauvé, parce que Jésus est venu pour sauver, il veut te sauver. Alors si tu fais cette prière, « Seigneur, sauve-moi », comme Pierre quand il était dans l'eau, eh bien, il te tend la main et il va saisir ta main. À toi de saisir la sienne. À toi de saisir la sienne. C'est ce que Jésus veut faire pour toi. Matthieu, lui, nous présente autre chose. Il ne nous présente pas Jésus, l'homme qui est né chez les pauvres. Matthieu, lui, s'adresse à des Juifs. Et lui, il décrit Jésus sous un autre angle. Il décrit Jésus comme le roi. Et c'est intéressant de voir justement cet autre récit qui nous montre à quel point, et là on s'en rend compte vraiment, à quel point Jésus n'a pas été reçu par les siens. C'est un passage qui nous en apprend beaucoup sur l'attitude du peuple d'Israël à cette époque. Matthieu chapitre 2, on va le lire aussi. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Des mages, ce sont des personnes, d'ailleurs vous verrez avec moi qu'ils ne sont pas trois, peut-être, mais peut-être pas. Il y a trois présents d'offert, mais il n'y a pas forcément trois mages. Donc s'ils ne sont pas trois, ça remet en cause les noms qu'on peut donner, d'ailleurs. Parce que s'ils sont quatre, comment il s'appelle le quatrième? Bon, vous voyez bien, vous allez voir avec moi que tout ça, c'est de la tradition. Les mages, ce sont des personnes qui venaient d'Orient. D'ailleurs, on ne sait pas où. On a des suppositions, mais on ne le sait pas vraiment. Ils viennent d'Orient. Et ces mages-là, ils ont des connaissances particulières. Et ils auront, on ne sait pas, la Bible ne nous le dit pas, mais c'est sûr, parce que sinon, on ne les voit pas apparaître comme ça de nulle part. C'est que Dieu leur a parlé. Ils savaient qu'avec l'étoile qu'ils ont vue, ça correspondait à l'événement de la naissance de Jésus. Sinon, ils ne seraient pas venus. On est tous d'accord, il faut être logique un peu. Et si les mages viennent, c'est qu'ils sont convaincus qu'en liaison avec cette étoile qu'ils voient dans le ciel, eh bien, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé en Israël. Et ils ont forcément reçu une parole qui dirait que c'est à Jérusalem qu'il fallait aller. Donc, ils ont obéi, ils y sont allés par la foi. On ne sait pas d'où ils viennent, d'ailleurs, leur voyage va durer un certain temps. Et là aussi, on va tordre certaines idées reçues tout à l'heure. Mais les mages sont des personnes importantes, très importantes. Et on va voir ça de suite. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc on voit quoi ici? Est-ce que si vous voulez aller au palais de l'Élysée comme ça, vous pouvez rentrer? Je pose la question. Je ne le pense pas. Ici, on a affaire à des rois qui vont voir des rois. On est d'accord? Et là, ils vont voir Hérode. Et ils peuvent aller en toute liberté chez Hérode parce que ce sont des gens importants. Et ils vont voir Hérode et ils lui posent la question. Verset 3, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez les informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi, moi, l'adorer. » Là, je m'arrête là, quelques instants, parce que là, on réalise pas ce qu'on lit toujours. Les personnes qui ont la foi ici, c'est des personnes qui ne sont pas d'Israël. Les siens ne l'ont pas reçu. On a affaire à des personnes qui ont toujours reçu la parole depuis leur jeunesse, et c'est toujours resté là. Au point que quand Hérode les consulte, ils sont capables, tac au tac, de dire, voilà ce qu'il est dit, tac, 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 ils disent le verset, tout ça. Ils savent retrouver la prophétie, mais ils ne l'ont jamais reçu là. Pourquoi ? Parce que ces personnes, elles ne sont même pas étonnées de voir les mages ainsi arriver. Ils ne se posent même pas la question de savoir si c'est fondé, cette interrogation. Ils ne vont même pas eux-mêmes aller voir ce qui s'est passé à Bethléem. Comment ça se fait que vous nous posiez cette question ? Il n'y en a pas un qui a cherché. On leur a posé la question, ils ont répondu, mais il n'y en a pas un qui a capté quelque chose, qui se passait quelque chose. Il n'y en a pas un qui a reçu qu'effectivement cette prophétie était réalisée. Il n'y en a pas un qui a percuté, comme je dirais, excusez-moi ce vocabulaire, mais c'est ça. Ils ont été capables de répondre à la question et eux-mêmes ne se sont même pas inquiétés d'aller voir ce qui s'était passé. Ils n'ont pas sourcillé, ils ne se sont pas rendus compte. Un autre personnage à la fois, c'est Hérode. Hérode, il a la foi, il y a cru à cette affaire, parce qu'il veut chercher à le tuer. Il y croit sur parole, il voit la délégation qui se pointe, et il y croit. Les Juifs, eux, ne l'ont pas cru, mais Hérode, lui, il y croit. Et il a la foi, et au point qu'il va vouloir, il va faire un massacre, tellement il y croit. C'est malheureux d'avoir la foi pour en arriver à des choses pareilles. La foi en Jésus ne vous amènera jamais là. Mais ici, on voit quelque part, ce que je tiens à mettre en exergue ici, c'est que les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, excusez-moi l'analogie, mais ceux qui ont reçu depuis leur enfance les paroles de Dieu, ceux qui ont été instruits, enseignés, ceux qui avaient connaissance même des prophéties, qui connaissaient par cœur la loi, ils n'ont pas reçu Jésus. Ils n'ont rien compris. Ils étaient insensibles. Ils étaient insensibles. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On continue le passage, je crois que j'étais rendu au verset 9. « Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précéder, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, c'est plus l'étable d'ailleurs, et ils virent le petit enfant, c'est pas un nouveau-né là, c'est un petit enfant. » Donc les mages dans les tables, tout ça, bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas biblique. Donc la tradition qui met tout le monde ensemble avec l'âne, avec tout ce que vous voulez, c'est pas biblique du tout. Les mages, la Bible dit, sont entrés dans la maison et ils ont vu le petit enfant, ce qui sous-entend bien que le voyage a duré un certain temps. Le voyage a duré un certain temps, si bien que Jésus avait peut-être un an déjà. Et Joseph et Marie étaient dans une maison. Entre-temps, ils s'étaient installés dans une maison. Et moi, à la lumière de cette scène, je ne sais pas, on va reprendre l'analogie avec le président de la République, mais si un jour, M. Macron vient vous voir, qu'est-ce qui va se passer ? Votre rue va être bloquée, des barricades partout, les flics partout. Il va pas venir seul. Monsieur Macron d'ailleurs va y avoir ses gardes du corps, peut-être un ministre avec lui, etc., etc. Et les mages, ils sont pas venus que 4 ou 4. Hein. Il y avait toute une caravane présidentielle qui était avec eux. C'est pas écrit, mais quand des officiels se déplacent, c'est comme ça. Imaginez maintenant les voisins qui voient les mages arriver. Ils sont arrivés, ils n'ont pas pu arriver incognito. C'est pas possible. Ils sont arrivés, ça a dû faire du bruit dans le village. C'est forcément, quand ils sont arrivés, avec leur, ils sont pas arrivés en guenilles non plus. Ils sont arrivés avec leurs vêtements officiels, avec tout ce qu'il y avait de plus officiel. Imaginez les chameaux, imaginez toutes les provisions qui étaient avec eux, imaginez tout ça, parce qu'ils sont pas venus les mains vides. Et d'ailleurs, en Orient, c'était la marque qui montrait qu'ils allaient voir un roi. On ne se présentait pas devant un roi les mains vides. Et c'est de cela qu'est tiré aussi dans la loi le fait qu'il y ait cette recommandation « Tu ne viendras pas devant ton Dieu les mains vides » quand il était question des offrandes aux Israélites. Parce que Dieu, c'est le roi. Et quand on vient devant un roi, eh bien, on ne venait pas chez les Orientaux, on ne pouvait pas se présenter devant un roi les mains vides. Il y avait toute une délégation qui était là. Et personne n'a vu, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais personne ne s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait dans un village. Ça doit faire la une des journaux, normalement, un truc comme ça. Et personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Ils ont offert de l'or qui montrait la royauté de Jésus, de l'encens qui préfigurait que Jésus serait un homme de prière et qui allait s'offrir lui-même comme un sacrifice d'une bonne odeur. De la myrrhe qui parle aussi de ses souffrances qu'il va endurer à la fin de son ministère, parce qu'il va donner sa vie. Et personne ne s'est rendu compte. Personne ne s'est rendu compte. Les mages sont venus, ils sont repartis. Et peut-être que certains se sont posé la question, se sont dit, tiens, c'est bizarre, vous avez vu ce qui s'est passé hier, si on allait voir Marie et Joseph pour voir ce qui s'est passé. Et ils tapent à la porte et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne parce que dans la nuit même, Joseph et Marie ont été divinement avertis qu'il fallait descendre en Égypte. Et Jésus n'était plus là. Jésus n'était plus là. Le Seigneur est venu dans ce monde et les gens ne l'ont pas reçu. En Israël, il n'a pas été reçu comme il aurait dû l'être. Il n'y avait pas de place pour Jésus. Pas de place dans l'hôtellerie. J'aimerais te poser cette question. Pour toi ce soir, est-ce que dans ton cœur, il y a de la place pour Jésus? Jésus donne le cas d'un homme riche qui disait « Je n'ai plus de place dans mes greniers ». Il avait amassé des tas de choses de ce monde. Et finalement, Dieu lui dit « Ton âme te sera redemandée ». À quoi ça sert de s'amasser des tas de choses et de ne pas avoir la place nécessaire pour recevoir Jésus? Ma prière ce soir, c'est qu'il y ait de la place dans ton cœur. Que tu lui fasses de la place s'il le faut. Parce que le Seigneur veut venir dans ton cœur pour te faire du bien. J'aimerais juste terminer sur cette notion, c'est que Jésus, il est né dans une crèche. Une mangeoire, c'est un autre mot. On y met quoi dans une mangeoire? On peut y mettre de la nourriture, des grains, des céréales pour les bovins, le bétail. On peut y mettre de l'eau aussi. Pour qu'ils puissent boire. Et ces grains de blé qui vont être écrasés, qui vont servir de nourriture. Mais Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le pain de vie. Je suis celui qui est donné aux hommes. Je suis une véritable nourriture, dit Jésus. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, a dit aussi Jésus. » Et Antoine l'a dit tout à l'heure. La crèche, c'est l'endroit où finalement on voit que Jésus est né, et c'était une préfiguration de ce qu'il attendait déjà. Déjà, dès sa naissance, la croix était déjà prédite. Il est né dans une crèche, il est venu pour souffrir comme une nourriture, il est venu pour donner sa vie, donner tout ce qu'il est lui-même, pour que l'humanité tout entière puisse recevoir la vie qu'il veut donner. Quand on mange et quand on boit, c'est pourquoi ? C'est pour avoir la vie. Pour maintenir sa vie. Si je ne mange pas, si je ne bois pas, au bout de 3 jours, si je ne bois pas, je vais mourir. Et si au bout de 3 semaines, 1 mois, je ne mange pas, je vais mourir. Jésus est venu comme une nourriture. Et il s'est présenté, il est né suite à sa naissance, il était dans une crèche, il était une nourriture, il était quelqu'un qui donne la vie. Il a donné sa vie pour que nous, on puisse l'avoir. Et ce soir, j'aimerais te dire qu'à travers son sacrifice à la croix, C'est sa vie qu'il a donnée pour que toi, tu puisses l'avoir. Quand vous mangez de la nourriture, entre guillemets, la nourriture, elle périt, mais elle est transformée en vous. Et elle devient ce qui vous maintient en vie, la nourriture, même que vous mangez. Avec Jésus, c'est pareil. Il était cette nourriture spirituelle qui est morte, qui est revenue à la vie, grâce à Dieu, mais qui, par cette mort-là, vous transmet aussi la vie. Et vous pouvez recevoir la vie qu'il vous donne, parce qu'il est mort, qu'il est ressuscité le troisième jour. Celui qui vient à lui et qui lui demande pardon pour son péché, il peut être pardonné, il peut être réconcilié avec Dieu. Voilà le cadeau qu'est la venue de Jésus sur la terre. Voilà ce qui est annoncé. J'aimerais juste te poser cette question pour terminer. Comment toi tu vas recevoir Jésus? Est-ce que tu vas le recevoir en tant qu'animal dans une étale, ou est-ce que même que qu'il n'y a pas de place? Peut-être qu'il n'y a pas de place. Est-ce que tu seras comme ceux, voilà, il n'y a plus de place? Est-ce que tu seras comme ceux qui n'auront pas compris, comme les Juifs qui n'auront pas compris et qui ne l'auront pas reçu? Ou est-ce que tu vas le recevoir comme celui qui a préparé la place? Comme finalement, ceux qui ont honoré Jésus une fois de plus, ce sont des hommes qui n'étaient pas d'Israël. C'est aussi l'image de ce qu'est l'Église aujourd'hui. Le peuple d'Israël a refusé l'envoyé de Dieu. Leur propre Messie l'ont refusé. Et nous sommes au bénéfice de ce choix qu'ils ont fait. Et tu es au même bénéfice. Mais maintenant, la question se pose sur toi. Est-ce que toi, quand on te parle de Jésus, tu vois un petit bébé qui est né dans une crèche, ou est-ce que tu vois un grand roi? Les mages avaient vu un roi et ils l'ont accueilli comme il se devait. Et ils sont venus officiellement offrir ce qu'ils avaient à lui offrir. Et ils l'ont vu, ils l'ont discerné, ils l'ont cherché. Je t'invite ce soir, on va se courber. Je t'invite ce soir à réfléchir vraiment. C'est pas parce que tu as entendu depuis ton enfance, depuis que tu es tout petit, les choses que tu connais par cœur. Les Juifs aussi connaissaient par cœur. Et pourtant, ils n'ont pas su discerner la présence même de leur Sauveur au milieu d'eux. Ils n'ont pas su reconnaître cet enfant qui n'était pas comme les autres. Alors qu'ils avaient eu des signes pour s'interroger eux-mêmes, alors qu'il y avait des choses extérieures, Dieu leur a tendu la main par l'intervention des mages pour qu'ils ouvrent les yeux et ils n'ont pas compris. Est-ce que tu es comme cela, qui a reçu depuis ta jeunesse et qui résiste, qui n'accepte que dans sa tête, ou est-ce que tu vas faire comme les mages et que tu vas aller plus loin, tu vas chercher davantage et tu vas demander à Dieu sa grâce sur ta vie? Tu vas demander à Dieu que tu le connaisses, non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. C'est ce que Dieu désire. Et c'est pour ça qu'il est venu. Est-ce que tu veux le recevoir, là maintenant, ce soir? Alors, si c'est le cas, je te demanderai juste de lever ta main. Ça peut être le moment, ce soir, de dire, oui Seigneur, finalement, je te connais qu'avec mon esprit, avec ce que j'ai appris. Et j'aimerais te connaître davantage. J'aimerais que tu te révèles à mon cœur. Je ne voudrais pas être comme ces gens qui ne l'ont pas reçu. Là, ce soir, il est au milieu de nous et il voudrait que tu puisses saisir qu'il veut rentrer dans ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas lui dire « Non, j'ai pas de place » ou est-ce que tu vas ouvrir ta porte? Et à ce moment-là, il pourra entrer et il pourra te révéler vraiment qui il est. Si tu veux faire cette prière, Seigneur, sauve-moi, alors lève ta main maintenant. Et le Seigneur interviendra. Il voit ce qui se passe dans les cœurs. Il voit ce qui se passe dans ton cœur. Peut-être que tu l'as déjà reçu. Alors glorifie le Seigneur pendant ce moment. Et dis-lui merci parce que le Seigneur t'a ouvert les yeux. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, te disons merci parce que tu t'es offert. Et c'est là tout le message que nous annonçons même en cette période. Tu n'es pas resté qu'un bébé, mais dès le début, dès le début, on comprenait l'importance de ta naissance. On pouvait saisir le message déjà que tu adressais aux hommes. Merci Seigneur Jésus parce que tu t'es montré aux petits. Tu t'es montré à ceux qui étaient dans cette humilité de cœur. Tu t'es fait pauvre Seigneur et là encore nous sommes au bénéfice Seigneur de voir à quel point tu t'es humilié pour nous Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour que, oui, Seigneur, ton esprit parle à nos cœurs, frappe à nos cœurs, pour que, oui, tu puisses pouvoir pénétrer dans les cœurs. C'est à chacun de décider, mais je te prie, Seigneur, pour que, oui, tu puisses frapper, continuer de frapper, Seigneur Jésus, parce que ce temps-là aura une fin. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que même à travers ce récit, Seigneur, nous pouvons voir tout ton amour. Nous pouvons voir tout ce qui était prévu par Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Amen.